La guérisseuse. La voix se rapprochait. Tous réalisaient qu'elle ne provenait pas du ciel, mais du tunnel sous la falaise, dont l'accès, visiblement, avait été libéré. Ils fixèrent le trou noir de l'entrée et observèrent avec stupéfaction une silhouette tout aussi noire s'en détacher lentement. Mordelia. Bill dansait sur place, heureux comme un ourson qui a trouvé une ruche, tout en scandant entre ses dents « je le savais qu'elle viendrait nous sauver !»« Déposez vos armes !» proposa Mordelia, toujours dans le dialecte des Prémas. « Pose où t'as-tu ? Et nous déposons les nôtres. Pose où t'as-tu ? »
« Tu parles notre langue ?» répliqua Crobleu, essayant de masquer sa surprise.
« Oui, » répondit Mordelia en continuant d'avancer. Sa robe noire traînait dans les vagues qui léchaient les rochers. Seuls ses cheveux blancs dépassaient de sa capuche. Jamais elle n'avait autant ressemblé à une sorcière.
« C'est un dialecte assez rudimentaire, » affirma-t-elle. « Pour le maîtriser, visionner les bandes vidéo de la clinique des immortels pendant un mois, jour et nuit, m'a amplement suffi. »
Bill siffla d'admiration. Moi aussi, je dois l'avouer, j'étais impressionné. Mordelia avait consacré des centaines d'heures à apprendre la langue de ses Prémas, et pourtant, j'en étais certain, elle les méprisait plus que tout. Les Prémas, filles comme garçons, ne cessaient eux aussi de fixer cette apparition bizarre, cette ombre noire qui parlait leur langue et continuait de les rassurer.
« Je ne vous veux aucun mal. Nobo, no kill. Je suis votre ami. Mais y as-tu ? Mais y as-tu ?»
Mordelia continuait d'avancer sur les rochers, sans s'arrêter devant les premières vagues. Un instant, je crus même que par un nouveau tour de magie, elle allait marcher sur l'eau. Mais elle se contenta de s'enfoncer dans la mer jusqu'aux genoux d'abord, puis la taille, puis la poitrine, sans cesser d'avancer. L'écume atteignait la hauteur de son cou. Un pas supplémentaire et elle se noyait. Elle progressa encore, pourtant en pleine mer, en direction de l'île, et le niveau de l'eau devant elle baissa miraculeusement. Bientôt, elle rejoignit la plage, entièrement trempée, mais cela ne semblait aucunement la déranger. Une nouvelle fois, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Elle avait dû repérer le seul passage en fonction de la marée qui lui permettait de rejoindre l'île à pied. Sans ralentir, Mordelia se dirigea droit vers le rouquin qui tenait, en grimaçant, sa jambe ensanglantée où la flèche s'était plantée. « Personne ne va mourir. No kill. Je suis venu vous soigner. Mia parabo. » Elle en rajouta un peu en se penchant vers le Prémat blessé, mais sans doute était-ce parce que j'étais habitué, depuis que j'étais né, au grand numéro de guérisseuse de Mordelia, à l'imposition de ses mains sur les plaies, à son air inspiré, aux pilules magiques qu'elle finissait par sortir de ses poches. Elle arracha la flèche du rouquin et posa une paume apaisante sur son front.
« Compte les étoiles dans le ciel cette nuit. Nom Stella noté. Et quand tu atteindras le total de 55, tu fermeras les yeux et tu t'endormiras. Oculo adio, cam dio. Demain, tu remarcheras. Nouveau sol nobotu. »
Malgré moi, je souris. Le baratin de Mordelia avait fonctionné pendant des années au tipi, au moins jusqu'à ce que nous ayons 12 ans. Il fonctionnerait aussi sur les Prémas. Sauf que Crobleu n'était pas prêt à se laisser déposséder aussi facilement de son autorité.
« Ne l'écoutez pas »
hurla-t-il.
« Non, dito ! Elle n'est pas des nôtres ! Non, mia, non, mia ! Elle ment ! « Reprenez vos armes et tuez-la ! Où t'as-tu ? Kill, kill !»
Il restait dissimulé derrière le palmier, se servant d'Alix comme d'un bouclier. Une porte claqua dans son dos.
« Tais-toi, idiot !»
Yak venait de surgir de sa maison. Les 7 privilégiés trottinaient derrière lui, bras ballants, désœuvrés. Yak paraissait à peine réveillé, mais déjà contrarié. Il découvrait sur sa plage ses Prémas armés de bâtons et de pierres, une armée d'archers en uniforme rouge dressés dans des barques entourant son île, et une étrange sorcière vêtue de noir qui le fixait.
Il choisit délibérément d'ignorer Mordelia et de s'adresser à Jeanne d'Arc, qui s'était rapprochée du rivage.
« Qui es-tu? Qu'est-ce que vous foutez là ?»«
Jeanne d'Arc, pour vous servir, ministre des punitions, délégué aux frontières du Nouveau Monde, commandant de l'aile des soldats et de sa cavalerie légère. Dès que nous avons reçu le premier pigeon voyageur, nous avons galopé pendant 2 jours, sans ralentir, sans même dormir. »
« Connerie !» grogna Yak. « Vos chevaux n'auraient pas tenu. »«
Nous en changeons tous les 30 kilomètres. Nous emmenons des chevaux frais qui n'ont porté aucun soldat et nous laissons derrière nous les montures fatiguées. »
Yak soupira. Derrière lui, les 7 privilégiés se dandinaient, dépassés par la situation, incapables de comprendre le moindre mot.
L'astronaute ne semblait pas avoir complètement dessoulé. Il conservait difficilement son équilibre sur le sable, mais parvint tout de même à se tourner vers Mordelia.
« Et moi, annonça-t-elle, je suis la reine du Nouveau Monde. »
« Rien que ça, ironisa Yak.
Dans un geste souverain, Mordelia fit tomber sa capuche, libérant ses longs cheveux blancs. Elle prit le temps de fouiller sous sa robe et d'en sortir une couronne d'immortels qu'elle posa avec délicatesse sur sa tête. Tous les prémats eurent un mouvement de recul, y compris Crobleu et les 7 privilégiés. Je comprenais que Mordelia avait définitivement pris l'ascendant sur eux. Yak l'avait deviné lui aussi. Il tenta maladroitement de reprendre le contrôle des événements.
« Et toi aussi, tu es venu en galopant, dans cet accoutrement ?»«
Non, sourit Mordelia. Je suis venu en carrosse, tiré tous les 30 kilomètres par les chevaux reposés que nos cavaliers nous avaient laissés. »«
Ben voyons. Eh bien, le Nouveau Monde est sacrément bien parti si c'est une fille comme toi qui en est la reine. Qu'est-ce que tu veux ?»«
Négocier. »
Yak dut se retenir au palmier le plus proche. Tous les prémats fixaient Mordelia, immobile.
Négocier, répéta l'astronaute en essayant de donner un minimum d'assurance à sa voix. Vas-y, je t'écoute. Dépêche-toi avant que j'ordonne à mes petits amis de tous vous massacrer, que vous soyez reine, général, tsar, grand Manitou ou rien du tout.
Mordelia ne parut pas impressionnée. Ce n'est pas moi qui suis chargée de négocier, répondit-elle calmement. « C'est mon conseiller. » Elle dirigea son regard vers la falaise et nous en fîmes tous autant.
Ogénor venait de surgir du tunnel, porté par Django et Idriss. Je comprenais qu'il avait dû partager le carrosse avec Mordelia, mais le faire descendre à bout de bras dans le souterrain avait dû prendre plus de temps.
Yak s'accrochait toujours au palmier. Aucun des 7 privilégiés, statufié, n'avait pris l'initiative de lui apporter une chaise, une serviette pour essuyer la sueur qui coulait en ruisseaux sur son visage ou un simple café pour l'aider à dégriser. Il se tenait les tempes comme si une terrible migraine compressait son crâne. Les 2 porteurs assis Ogénor sur un rocher au pied des vagues.
« Manquez plus qu'un handicapé !» beugla l'astronaute. « Quel est le prochain qui va sortir ? Un nain unijambiste ?»
Il essaya de se forcer à rire, mais le regard d'Ogénor posé sur lui l'en dissuada. Yak frissonna.
« Qu'est-ce que tu me veux ?»
Le grand cerf fixa plus intensément encore l'adulte survivant.
« J'ai un marché à te proposer. »
Le contrat. Yak et Ogénor se défiaient du regard. Plus personne sur l'île ou sur l'eau n'existait à part eux. Nous étions pourtant sacrément nombreux, 20 d'archers, 100 de prémats dont 1 rouquin blessé, 1 géant tatoué aux dents bleues et 7 privilégiés pétrifiés, sans oublier une ancienne reine ligotée à un palmier, une nouvelle reine baignant dans sa robe noire trempée, ainsi qu'Agnel, Bill, Novak et moi serrant nos beaux entre nos bras.
Tu as un marché à me proposer ? Répéta enfin Yak. « Vas-y, je t'écoute. Et n'oublie pas qu'il me suffit d'un geste pour tous vous massacrer. »
Ogénor, assis sur son rocher au bord de l'eau, parut ne pas avoir entendu cette dernière remarque.
« Le marché que j'ai à te proposer, Jacques Isard,
C'est une seconde chance pour toi. Autrement dit, une nouvelle vie.
Yak, toujours appuyé sur son palmier, éclata aussitôt de rire, un peu trop bruyamment pour que ce soit vraiment naturel.
Une nouvelle vie, rien que ça. Décidément, avec ta copine sorcière, vous pourriez former un sacré numéro de cirque. Qui te dit que j'ai envie de changer de vie ?
Tu vis seul, expliqua avec patience Augénor. Sur cette île, sans électricité, sans chauffage, sans eau courante.
Tu dors dans un lit sale, sur un matelas mou, dans des draps froids. Tu manges ce que tes prémas savent cuisiner, c'est-à-dire uniquement ce que tu leur as appris, des plats trop cuits ou trop froids, toujours les mêmes. Tu n'as aucune distraction à part dormir dans ton hamac au soleil et boire, boire et encore boire de la mauvaise vodka et du vin de table.
Yak l'avait écouté avec un calme religieux, mais l'énumération finit par l'exaspérer.
Ok, l'infirme, j'ai compris où tu voulais en venir. Et toi, tu me proposes quoi ?
Les jambes d'Eugénor baignaient dans l'eau jusqu'à ses genoux. Le grand cerf semblait apprécier de les voir flotter ainsi, plus légère qu'elle ne l'avait jamais été.
« Je te propose de t'emmener à Paris », annonça-t-il avec autorité. « En carrosse, avec autant de serviteurs que tu voudras autour de toi et une escorte pour garantir ta sécurité. Là-bas, tu pourras t'installer dans le palace de ton choix, Paris n'en manque pas. Le grand hôtel que tu choisiras te sera entièrement réservé pour toi et tes domestiques. Nous équiperons ce palace de tout le confort possible dans la mesure de nos capacités, mais elle progresse de mois en mois. Tu recevras une rente de 1000 lunes par mois. C'est la monnaie qui circule dans le Nouveau Monde. 1000 lunes, cela représente une fortune. Personne ne gagne autant que ça. »
Yak lâcha son palmier pour la première fois.
« Et même 1 000 000 de lunes, gros malin, ça me servirait à quoi ?»«
Avec ces 1000 lunes, » continua Augénor, imperturbable,
tu pourras commander les plats de ton choix réalisés par l'équipe d'Honora, notre meilleur cuisinier. Tu pourras te fournir en livres, en tableaux, en films, en musique. Et bien entendu, tu t'en doutes, les caves des palaces regorgent d'alcool de marque et de vins millésimés que le grand contrôle, notre intendance chargée des stocks, a réquisitionné, mais que tu pourras nous commander.
L'astronaute échoué sur le sable écarquillait les yeux.
Il paraissait puisé dans des souvenirs oubliés. Il avait sans doute imaginé que le Nouveau Monde était une sorte d'apocalypse, et Paris, une ville redevenue sauvage, livrée à des hordes d'enfants s'entretuant.
« Et en échange de cette nouvelle vie, qu'attends-tu de moi ?»«
De toi ? Rien, rassure-toi. »«
Je ne te crois pas. Tout a un prix. »
Augénor marqua un court temps de réflexion, laissant flotter sa canne et ses jambes mortes au fil de l'eau, tandis que Yak se posait 1000 questions.
« Oui, Jacques, tout a un prix. En échange de cette nouvelle vie, je veux acheter tes prémas. »
Yak en tomba les fesses dans le sable. Cette fois, aucun des 7 privilégiés n'esquissa le moindre geste pour le relever.
« Te vendre mes prémas ?»«
Ils t'obéissent. » précisa Augénor, toujours aussi détendu. Tu es la seule figure paternelle qu'ils connaissent, même si tu ne leur as pas témoigné beaucoup d'affection. Nous ne voulons pas entrer en guerre contre eux. Nous la gagnerions forcément, nous possédons l'avance technologique pour cela, mais ce conflit serait meurtrier et se traduirait par une guerre éclair, car nous devrons intervenir avant que tes prémas ne commencent à se reproduire.
Je regardais Alix, puis Agnel, troublé. Augénor venait de nous sauver la vie, mais je ne supportais pas la façon dont il parlait des prématurés. À ses yeux, ces ados n'étaient qu'un troupeau dangereux à dresser, et même à stériliser. Jacques fut traversé par un sursaut de fierté.
« Tu crois me convaincre avec des menaces ? Ces enfants prématurés sont mes gosses, tous !»«
Tes gosses ?» s'amusa le grand cerf.
Tu ne connais même pas leur nom, à part pour 8 d'entre eux. Tu ne sais même pas combien ils sont. Tu les laisses crever, livrés à eux-mêmes. Si tu me les vends, c'est-à-dire, pour être clair, si tu leur demandes de nous obéir, ils seront nourris, logés, ils gagneront même un peu d'argent.
Niak essayait désespérément de se relever, mais le sable dans lequel ses fesses étaient plantées paraissait l'aspirer.
« Qu'attends-tu de mes gosses ?»«
Des tâches manuelles. Il y en aura beaucoup. Défricher de nouveaux champs et les cultiver, construire de nouveaux bâtiments et les nettoyer. »
Yak laissa filer une poignée de sable entre ses doigts, puis regarda longuement sa maison, la falaise, les soldats dans leur barque arc toujours bandé. Il laissa traîner ses yeux sur Crobleu qui, seul parmi la centaine de primats, avait compris que pour lui aussi commençait une nouvelle vie.
« À ce que je vois, » admit Yak, « n'est pas trop le choix. »«
Ok, l'infirme. Mes gosses feront tout ce que tu leur demanderas. Je ne m'y opposerai pas tant que tu remplis ta part du contrat. Crobleu et mes 7 privilégiés resteront à mon service exclusif dans le palace que je choisirai. Tu me verseras une rente de 1500 lunes par mois. Et l'alcool me sera livré à volonté, sans aucune restriction ni de volume ni de qualité, et sans que j'aie à le payer. »
J'entendis Bill à côté de moi pousser un long soupir de soulagement. Ogénor ne put retenir un grand sourire cette fois.
« Je savais, Jacques Isard, que vous étiez un homme raisonnable. »
Yak cracha dans le sable.
« Ça, infirme, j'en doute. Tu vas faire de mes gosses des esclaves. »
« Ils l'étaient déjà. »
« Non, oh non !» Ils étaient des animaux sauvages, je te l'accorde, mais pas des esclaves.
Yak avait raison. C'est ce que je pensais à ce moment précis, même si je n'éprouvais que du mépris pour cet homme alcoolique, ce déchet de l'humanité, cette ordure qui avait sûrement 1000 fois moins mérité de survivre que nos parents, que nos frères et sœurs, que nos cousins. Oui, ce Jacques Isard avait raison. Ogénor allait transformer des êtres humains, nos égaux, en esclaves. Ferait-il de même avec les autres tribus que, immanquablement, nous finirions par rencontrer? Aurait-il envers eux le même odieux sentiment de supériorité? J'ai regardé Alix en avançant vers le palmier pour la détacher. Je savais qu'elle pensait comme moi. Nous étions libres désormais, dans ce nouveau monde que nous détestions déjà.